Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes en partenariat avec Amadeus Piano. Une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Merci d'être à l'écoute de Mélomanie et bienvenue au filet les nouveaux auditeurs du magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Encore beaucoup d'événements à commenter, annoncer et présenter lors de ce numéro, qu'il soit passé ou à venir. L'agenda musical est toujours aussi bien rempli en cette fin de printemps et nous allons nous faire un plaisir de nous pencher dessus avec le trio de Mélomania que j'ai réuni autour de moi dans ce studio. Il est formé d'Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, de Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, et de Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi. Avec eux, je suis très heureux de recevoir Catherine Kaufmann-Saint-Martin, notre invitée d'honneur, fondatrice et directrice artistique de Musique en Dialogue aux Carmélites, la saison de concerts-lecture qu'elle organise à la Chapelle des Carmélites de Toulouse et qui commence les 9 et 10 juin. Nous en parlerons avec elle en seconde partie d'émission. Bienvenue aussi à vous quatre. Sans plus attendre, retour sur l'actualité musicale de la semaine dernière pour la première partie de cette émission.
Mélomanie. Retour arrière.
Nous allons commencer cette première partie avec un concert qui a eu lieu en début de semaine dernière, justement. C'était à la Chapelle des Carmélites, dont nous allons beaucoup parler dans cette émission. Ce concert a été donné dans le cadre de la saison bleue par le duo Sarayankou-David Bismuth. La violoncelliste et le pianiste ont joué un programme de mélodies hébraïques. Anne-Marie Chouchan, vous y avez assisté et comme vous avez apprécié, vous teniez à en parler à Mélomanie.
Oui, je crois que c'était important de les voir tous les deux en concert parce qu'ils ont enregistré ces mélodies hébraïques dans un CD qui est sorti il y a déjà quelques semaines. Et ce CD fait le tour de cette musique hébraïque qui soit a été écrite par des compositeurs d'origine juive, soit par des compositeurs comme Maurice Ravel et d'autres qui ont été inspirés par cette culture et cette musique qui remonte à très loin aussi dans la tradition et qui a généré des œuvres très importantes, puisqu'il y avait Kaddish de Maurice Ravel, il y avait les deux mélodies hébraïques ont fait partie Kaddish, il y avait aussi une pièce de Shostakovich, trois pièces de Shostakovich qui sont extraites de poésie populaire juive. Et en fait, toutes ces œuvres, toutes très mélodiques, très chantantes, même, sont très très bien défendues par Sarayankou, qui a voulu aussi rendre justice à son patrimoine, au patrimoine de sa famille, et qui prête à toutes ses œuvres un violoncelle toujours très beau, avec une chaleur de son, une ligne très soutenue, une belle poésie, et elle joue ça merveilleusement bien, avec la complicité du pianiste David Bismuth. Ils ont déjà aussi donné des concerts ailleurs, je crois qu'ils en redonneront, et si on n'a pas eu la chance de les écouter en direct, on peut donc écouter ce disque qui s'appelle Mélodie hébraïque et qui est vraiment très beau et qui s'écoute pour le plaisir parce que ce sont de belles mélodies et que ce violoncelle chante avec une telle émotion, une telle beauté de son qu'on succombe.
Oui, alors il faut préciser que Sarayankou est la violoncelliste solo de l'Orchestre National du Capitole et qu'on est quelques-uns autour de la table de ce studio à l'avoir souvent entendu avec le Capitole mais aussi au Clé de Saint-Pierre pour des concerts qui à chaque fois étaient mémorables. Elle a un son magnifique, hein. Serge, vous pouvez en témoigner.
Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'elle c'était la première à jouer dans le dernier concert de l'Orchestre du Capitole en solo avec la harpe.
Avec la harpe de Gaël Touvenin.
De Gaël Touvenin, exactement.
Nous parlerons aussi dans quelques instants. Alors, le programme de ces mélodies hébraïques, comme vous l'avez dit Anne-Marie, beaucoup de compositeurs d'origine juive, pas forcément très connus, mais il y a quand même quatre compositeurs nettement plus connus que les autres. Il y a Ravel, vous l'avez cité, Shostakovich, Max Bruch,
qui était aussi,
et Darius Milhaud, qui lui, contrairement aux autres, lui était juif. Et il a écrit 6 chants populaires hébraïques superbes. On va écouter justement une pièce de Darius Milhaud, dont le titre est Chant acidique, interprété bien sûr par Sarayankou et David Bismuth.
Thank you.
magnifique chant acidique, courte pièce de Darius Milhaud, jouée par Sarah Yankou et David Bismuth, un extrait de leur concert Mélodie hébraïque donné la semaine dernière à la chapelle des Carmélites lors de la saison bleue, dont le prochain rendez-vous est prévu mardi 5 juin à 18h15 avec le concert du pianiste Hervé Billot, toujours à la chapelle des Carmélites. Et Anne-Marie, vous vouliez préciser quelque chose concernant le CD de Sarah Yankou et David Bismuth?
Oui, ce CD est édité par l'Institut européen des musiques juives, mais il a bénéficié du soutien de l'association AIDA, l'association de mécènes qui soutient l'Orchestre National du Capitole et depuis la rentrée, le théâtre et le ballet du Capitole. Donc c'est important puisqu'ils soutiennent en fait souvent les concerts, tout ce que font les musiciens de l'orchestre aussi.
Y compris pour les clés de Saint-Pierre.
Y compris les clés de Saint-Pierre,
voilà. Aussi le dire. Merci pour cette précision. Eh bien, vous parlez de l'Orchestre National du Capitole. La semaine dernière également, samedi 26 mai à la Lograin, notre orchestre toulousain était en concert sous la direction du jeune chef brésilien Marcello Leninger. C'était une première pour lui à Toulouse. Au programme, il y avait trois œuvres, les variations concertantes de Ginastera, la symphonie numéro 7 de Beethoven et le concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns. Pour ce concerto, l'Orchestre National du Capitole devait initialement accompagner Fazil Say, mais malheureusement, celui-ci a dû déclarer forfait en raison d'une tendinite au bras. Il a été remplacé par le jeune pianiste Guillaume Vincent, que pour ma part, je découvrais à cette occasion, et je dois dire qu'il m'a très favorablement impressionné, ce Guillaume Vincent. Vous qui étiez aussi dans la salle, qu'est-ce que vous en avez pensé, Anne-Marie et Serge?
Oui, oui, en effet, il a un jeu très particulier.
Oui.
Ça n'est absolument pas lourd, c'est d'une légèreté incroyable, d'une finesse, un jeu un peu perlé, très, très transparent.
Un son très transparent, oui, c'est ça.
Et très virtuose. Un pianiste qui a 27 ans, hein, et donc tout jeune, hein, et alors qu'il joue de tout son corps. Hein.
Ah, c'est ce que j'allais dire. Alors là, c'est pas du tout le genre sphinx à la Michelangelo Rubinstein.
Ah, non,
tout
non.
Bouge chez lui. Hein.
Ah oui, exactement.
Il se tendine, il sautille sur le. En plus, il est grand, donc ça se voit beaucoup.
Oui, oui.
Il fait le grand geste avec les bras.
Des grands gestes avec les bras.
On dirait un albatros par moment.
Oui, 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 oui. Non, c'est amusant. Mais c'était vraiment très bien. Hein. C'est-à-dire que c'est un concerto aussi écrit par un virtuose du piano. Saint-Saëns, oui, c'était un virtuose.
Absolument.
Piano,
ouais,
hein.
Ouais, ouais.
Et donc
à la suite de Chopin et Liszt, c'était
oui,
le grand virtuose.
Et ce qui est amusant, c'est qu'à la création du concerto, oui. Il l'avait écrit pour Anton Rubinstein, un virtuose de son époque.
Et c'est lui qui dirigeait.
Et à la création, il a fait diriger l'orchestre par Anton Rubinstein.
Et lui,
c'est lui-même qui a été le soliste de ce concerto. Donc, évidemment, Guillaume Vincent a joué ça avec beaucoup d'énergie, mais une énergie maîtrisée. Donc, c'était
Il avait de la sensibilité. Il avait à la fois la puissance et la sensibilité.
Exactement. Beaucoup de nuances. C'était vraiment très bien. Une très belle exécution. On n'a pas vraiment perdu.
Non, non, je crois pas. Et puis, alors, peut-être que certains spectateurs qui suivent l'Orchestre du Capitole l'avaient déjà vu, puisqu'il avait joué avec l'Orchestre du Capitole en décembre 2016 à
Audi-Sud, oui.
Le concerto d'Aram Khatchatourian.
Oui.
Alors, il a joué un bis.
Il a joué un bis, alors un bis que tout le monde
oui.
a reconnu, Rêve d'amour de Liszt, évidemment.
Oui, oui.
Alors qu'il a joué alors, de manière tout à fait différente. Là, il y avait un legato, c'était très beau, très poétique, donc très, très, très bien. Et très bien accompagné par un orchestre dirigé par ce chef brésilien, Marcello Leninger, qui venait pour la première fois à Toulouse.
Très jeune aussi. Hein.
Très jeune, oui, oui, oui. Et vraiment un chef...
Bon, assez expressif aussi.
Très expressif et qu'on aimerait revoir. Et qui a été d'ailleurs acclamé par les musiciens.
Il a été rappelé plusieurs fois par le
public. Et applaudi par les musiciens. Donc c'est un test. Et puis il avait mis au programme quand même une œuvre très peu jouée. Qui était
un compositeur,
les variations concertantes d'Alberto Ginastera, compositeur argentin, donc de son continent en quelque sorte, mais une œuvre originale que j'ai eu plaisir à découvrir. Hein. C'est
je
une sorte de,
plus,
de concerto pour orchestre, hein, puisque c'est une œuvre, on a l'impression qu'elle est écrite pour mettre en valeur les solistes d'un orchestre. Et effectivement, successivement, alors une introduction étonnante avec un duo entre la harpe et le violoncelle, a cappella. L'orchestre ne joue pas. Et puis ensuite, des interludes ou des variations, soit pour flûte, pour clarinette, pour alto, pour hautbois, pour violon. Enfin, ils se succèdent les uns après les autres, trompettes aussi. Et là, l'orchestre était à l'aise, puisqu'on connaît la qualité des ventes de l'orchestre. Et là, vraiment, ils se sont donnés à cœur joie. Et puis, il y avait, bien sûr, le tube de la soirée. C'était
la septième.
C'était la septième symphonie de Beethoven, la fameuse apothéose de la danse telle que l'a qualifiée Wagner, et qu'il a dirigée avec beaucoup d'énergie aussi,
ah oui.
Et une espèce de tension constante, avec des tempi soutenus, en particulier l'allegretto, qui n'a pas joué comme une marche funèbre, ce que quelquefois certains chefs d'orchestre font.
Parce que c'est tenté par ça, oui.
Parce que c'est tentant, hein, c'est un mouvement quand même très, très expressif et très sensible, très émouvant. Et il l'a joué avec un bon tempo, enfin un bon tempo selon moi, hein. Il y en a qui peuvent préférer un tempo plus lent, mais je trouvais que c'était très très bien. Et les deux mouvements... finaux, donc le scherzo et le final. Alors là, emporté avec un rythme tout à fait étourdissant, donc c'était vraiment très très bien. On espère revoir ce jeune chef d'orchestre.
Je pense, dans la mesure en plus où les musiciens ont manifestement beaucoup apprécié, le public aussi, ça va sans dire, il y a toutes les raisons pour qu'on le revoie.
Oui, alors simplement, moi je n'ai pas assisté à ce concert, mais je rebondis sur ce que dit Serge, sur cette 7e symphonie de Beethoven, et nous sommes nombreux autour de cette table à avoir presque redécouvert cette symphonie il y a un an à peu près, sous la direction de Maxime Emelianichev, qui effectivement nous avait donné à entendre une autre 7e symphonie, une autre apothéose de l'Anna. C'est en particulier ce que souligne Serge, cette fameuse marche que très
la
souvent...
L'Adagietto.
Non, qui est,
Allegretto.
Allegretto,
c'est l'extrait le plus connu, je pense, de la
parfois une marche un peu funèbre, un peu lourde, alors qu'en définitive, il ne faut pas oublier que cette symphonie a comme sous-titre l'apothéose de la danse, voilà. Et donc c'est tout simplement un tempo différent, mais qui n'est pas funèbre, loin s'en faut. Donc effectivement, a priori, les jeunes chefs d'orchestre sont en train de revisiter leur modèle. Quoi, voilà.
Oui, parce qu'il me semble en avoir entendu... beaucoup de symphonies de Beethoven, y compris la 7e. Parfois, cette musique, malheureusement, elle n'a pas toujours servi d'une façon, ou alors c'est routinier, ou alors, le pauvre Beethoven aussi, son discours, c'est tellement convenu parfois, pas très bien architecturé. Là, il y avait tout, je pense, aussi bien la solidité de l'architecture que la pulsation rythmique qui ne faiblissait pas, puis en même temps un sens des couleurs, d'une expression qui n'était jamais forcée, y compris dans ce qu'on appelle la marche funèbre. Cette apothéose de la danse, ces rythmes finaux, à chaque instant, c'était pensé, c'était excellent, je trouve, une interprétation magistrale et qu'on a eu plaisir à découvrir. Et j'espère qu'on réentendra ce chef d'orchestre,
qui était une
découverte.
Pour avoir discuté avec lui, je sais que lui ne demande que de revenir.
Oui, il m'a semblé aussi qu'il était très heureux d'être là.
Il était tout à fait heureux de l'orchestre, il les a fait lever, un par un, tous les solistes.
Il a aimé la salle, il a aimé le public.
Ah oui, il était ravi.
Pour qu'on le revoie. Un petit mot sur Guillaume Vincent, vous entendiez, je crois, pour la première fois, vous.
Oui, on a découvert, mais je dois dire que c'est un garçon qui a une technique incroyable, mais je n'aime pas trop ce concerto, je dois dire. Non, c'est pas ça, mais c'est dans ce genre d'œuvre, c'est un vrai marathon pianistique, un assaut de virtuosité, de rythme, mais l'œuvre elle-même, c'est une performance, mais je crois que le garçon, le pianiste, là, a beaucoup de talent et qu'on en entendra parler aussi dans d'autres domaines.
Comme l'a dit quelqu'un à l'entracte, c'est plus que prometteur, ce que nous avons entendu par Guillaume Vincent.
C'est vrai.
Bon, concernant le concerto numéro 2 de Saint-Saëns, on sent peut-être que c'était composé par un pianiste qui était virtuose lui-même.
Exactement, exactement. Et le final en particulier, complètement étourdissant. Le final...
Il y a une certaine froideur, sinon, dans cette œuvre, c'est pas quelque chose à quoi on s'attache. C'est un exploit pianistique, presque.
C'est une œuvre brillante, vraiment brillante.
Voilà. Comme Anne-Marie Chouchon n'aime pas le concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns, on va l'écouter. On va l'écouter. Et puis, Fazil Say était forfait pour ce concert, remplacé par Guillaume Vincent. Je propose qu'on écoute quand même Fazil Say dans cette émission. Dans un extrait du concerto pour piano numéro 2 de Saint-Saëns, il s'agit du deuxième mouvement Allegro Scherzando. Il est accompagné par l'Orchestre National de France. Thank you. deuxième mouvement Allegro Scherzando du concerto pour piano numéro 2 de Camille Saint-Saëns, interprété par Fazil Say, accompagné par l'Orchestre National de France, dirigé par Christian Jarvi. Nous allons maintenant revenir une dernière fois sur Macbeth, l'opéra de Verdi, dont les représentations se sont terminées mardi au Théâtre du Capitole. Nous l'avions déjà évoqué dans cette émission avec Anne-Marie Chouchan et Hubert Stocklin, mais entre-temps, Serge Chosy et moi-même nous l'avons vu. Robert Pennavert l'avait vu quelques jours auparavant, mais il n'avait pas encore eu l'occasion de nous faire part de ses impressions dans cette émission. Il se trouve que cette production a donné lieu à des réactions très contrastées, ce qui nous donne une bonne raison d'en reparler, notamment avec vous Robert, qui semblait pour le moins critique, et je pèse mes mots en disant cela. Alors qu'est-ce qui vous a déplu dans ce Macbeth ?
Alors, qu'est-ce qui m'a déplu ? Enfin, certainement pas l'œuvre, c'est une œuvre que j'adore. Hein. C'est une œuvre de transition entre le premier bel canto et puis Verdi qui commence à entrer dans le drame musical. Donc ça, c'est intéressant, mais on sent bien qu'à certains moments, ça se chevauche un peu. Il ne sait pas très bien où il va, mais il n'empêche que c'est quand même du Verdi et puis ça ne peut qu'enflammer l'âme et le cœur. Donc l'œuvre, pour moi, n'est pas en cause. Par contre, c'est une œuvre très difficile à monter, justement parce qu'elle n'a pas, on va dire, la rigueur, par exemple, d'un Trouvert, d'une Traviata. Enfin, c'est une œuvre qui se cherche. Donc, résultat, si on n'a pas un metteur en scène, d'abord Hubert et Anne-Marie, tous les deux l'ont bien expliqué la semaine dernière, c'est une œuvre psychologiquement difficile à aborder. C'est sûr.
C'est sûr. Moins qu'on puisse dire.
C'est deux personnages, enfin un en particulier, monstrueux, les Dix Macbeths.
Monstrueux et complexe.
Ça déjà, voilà, c'est déjà un premier problème. Je ne suis pas persuadé que Jean-Louis Martinotti, personnellement évidemment, se soit montré particulièrement
inspiré
là-dessus. Ensuite, pour moi, la clé de voûte de Macbeth, c'est le chef d'orchestre. Et là, je pense que ce chef d'orchestre espagnol, Michele Gamba, je pense que c'est un jeune chef d'orchestre,
oui.
Mais je ne suis pas persuadé qu'il ait vraiment approfondi l'œuvre. Je l'ai vu diriger le soir de la première. Alors, entendons-nous bien.
Oui, il faut préciser, vous l'avez vu à la première et plus après.
Voilà, non, je ne l'ai pas vu après, je ne l'ai pas revu, en fait, je n'ai pas trop envie. Je l'ai vu beaucoup, le nez dans la partition, le soir de la première. Je comprends, c'est une œuvre qu'il n'a pas l'habitude de diriger, il n'a pas une énorme carrière derrière lui, même s'il a été l'assistant de chef prestigieux, lyrique, enfin l'assistant donc. Voilà, et là j'ai trouvé que son Verdi était particulièrement brutal. Alors qu'en fait, oui, à certains moments, mais justement, il appartient au chef d'orchestre d'arrondir ces angles-là et de ne pas au contraire les souligner. Le résultat immédiat, qui plus est, comme vous l'avez tous remarqué, il a eu l'idée... Je trouve qu'il n'est pas génial du tout. L'idée de mettre les cuivres à découvert.
Oui, la disposition de l'orchestre était particulière.
Voilà, côté court. Donc, résultat, quelques connaissances qui étaient côté court plutôt côté de l'orchestre, donc ils ont entendu un concerto de trompette, quoi, littéralement. Mais que personne ne lui ait fait remarquer cette chose-là, voire des chanteurs. Alors, le résultat pour les chanteurs, c'est qu'en permanence, c'est la puissance, oui. Les chœurs, c'est pareil. Donc, résultat, c'est un spectacle dans lequel, franchement, on n'a pas entendu beaucoup de nuances. Et ça, c'est dommage, mais vraiment dommage. Alors ensuite, les chanteurs, moi, je pense qu'il faut surtout parler de Beatrice Auriemmozzone. Pourquoi ? Parce que Beatrice Auriemmozzone, je suis en train de te dire, tout comme Verdi à l'époque de la composition de ce Macbeth, elle est à une période transitoire. Donc, à l'espace de 2 ans, elle a abordé Tosca, et d'ailleurs relativement bien, puisque j'ai eu le plaisir d'être à sa première en Avignon. Et vraiment, elle a assuré, je me demandais ce qu'elle allait faire, mais elle m'a ébloui, littéralement, pour une première Tosca, même si je reconnais qu'elle était, on sentait que sur scène, au début, au premier acte, elle était un peu stressée. Mais ensuite, bon, la voix a repris son assise, et vraiment, cette Tosca, c'était bien. Ensuite, elle a filé le rôle de Macbeth un peu, non pas en secret, mais de manière très confidentielle, mais c'était public, hein, mais encore fallait-il le savoir, c'était à Marmande il y a à peu près 1 an et demi. Et là, j'avoue qu'elle m'a littéralement époustouflé. Là, je me dis, ben voilà, le grand soprano Falcon que la France attendait, il est là. En fait, c'était un entraînement pour sa prise de rôle scénique qu'elle a réalisée quelques mois après à la Monnaie de Bruxelles. Donc, franchement, j'attendais cette Lady Macbeth très sereine. Après est arrivée cette première au Capitole, et franchement, dès les premières secondes après le prélude, dès les premiers mots, puisque c'est elle, eh bien là, j'ai eu peur qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait un problème, qu'elle soit fatiguée, mais il n'y avait pas eu d'annonce, hein, parce que la voix bougeait, le médium n'était plus là, s'il y était, il était un peu voilé, le grave n'était pas appuyé. Ensuite, le baryton est arrivé là-dessus, c'était guère mieux. Là, j'ai cru, j'étais à côté d'un ami critique. On s'est regardés tous les deux, là, pendant un quart d'heure. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est pas possible. Hein. Alors, immédiatement, on a senti qu'il fallait de la puissance pour passer. Et le chef, je ne sais pas, peut-être qu'il n'a pas entendu.
Quand vous dites de la puissance, de la surenchère, vous voulez dire?
Il fallait passer l'orchestre.
Voilà, c'est ça, donc de la surenchère.
De la surenchère. Alors, je ne sais pas si le chef avait conscience de ce qui se passait sur le plateau.
C'était la première, alors peut-être pas.
Ah oui, mais bon, première ou pas.
Il y avait une générale avant, on me dirait.
Oui, mais il y avait du public aussi. Hein, donc, oui, alors, oui. Soit c'est une générale, soit c'est la première. Oui. Hein, bon, voilà. Et on avait l'impression qu'il ne se rendait pas compte de ce qui se passait sur le plateau. Et il continuait à diriger, mais de manière tout à fait inappropriée, non seulement pour les chanteurs, mais également, à mon sens, évidemment, hein, dit de manière très humble, malgré tout, par rapport à cette partition qui doit être menée, à mon sens, autrement. On en a tous, là, autour de cette table, plusieurs versions. Bon, personne n'a osé faire des choses pareilles. Quoi. Enfin, alors maintenant, effectivement, on le disait à propos des jeunes chefs d'orchestre, ils revisitent. Sauf que lorsque vous avez un plateau en face, lorsque vous avez une prise de rôle, quasiment une prise de rôle périlleuse, que vous avez un baryton qui le chantait pour la deuxième fois, parce que pour Vitaly Bily, un baryton que j'aime bien, hein, mais bon, Macbeth, il a chanté une fois il y a 5 ans. Et comme par hasard, jamais plus il a chanté. Pourquoi? Parce que le baryton de Macbeth, c'est un baryton qui réclame un très gros médium. Ce n'est pas le cas de Vitaly Bily. Il s'exprime sur une autre partie de sa voix. Et là, en plus, il est obligé de grossir le son. Donc, résultat, la voix est partie. Voilà, simplement. Alors, parlons pas de legato, parlons pas de musicalité. Non, il fallait passer l'orchestre. Alors après... Fort heureusement, je ne sais pas, peut-être qu'à l'entracte, les choses se sont dites en coulisses, mais après, il semble que ce soit un peu arrangé, tout le monde a repris ses marques, mais à noter, et ça c'est quand même significatif, que le soir de la première, il n'y a pas eu un applaudissement en salle, malgré des airs archi connus. C'est exactement la même histoire que la Carmen, hein, que nous avons eu il y a peu de temps, hein, où il n'y a pas eu un applaudissement avec des airs qui sont encore plus connus. Moi, je pense que le public toulousain sait faire la différence. Alors je parle là, c'est pour les deux principaux rôles. Ouais. Voilà. Après, bon, la basse coréenne, ouais, il a une voix, oui, indiscutablement, une voix. Alors, est-ce qu'il a un timbre, moi, je trouve, le soir de la première, encore une fois, je trouve qu'il appuyait beaucoup trop, c'est grave, c'est inutile. Sauf que, il fallait qu'il passe l'orchestre.
Oui, on en revient toujours à
donc,
ça.
Donc, il n'avait pas d'autre solution. Hein. Il n'avait pas d'autre solution. Voilà, et ça, c'est dommage. Ensuite, le petit ténor...
Je ne sais pas de quelle origine il est.
Georgi Kia, oui. Il est géorgien. Bon, il a quasiment la scène la plus connue de toute l'œuvre. Oui. Scène, air et cabalette avec oui. Air. Bon, il assure, c'est une voix brillante, il a une voix homogène. On ne saute pas partout, mais enfin, il assure. Ça, il n'y a pas de problème. Les chœurs, moi, j'ai le souvenir de chœurs magnifiques, mais vraiment magnifiques.
Bon, il y a des gens comme Michel Grialou qui vont à toutes les représentations, et vous pouvez lire ses critiques sur Culture 31, qui sont sensiblement différentes sur le fond et même la forme que celle de Robert. Serge, on était nous tous les deux à la 4e représentation,
oui,
vendredi, je crois qu'on peut un petit peu nuancer quand même, notamment l'orchestre, il me semble qu'il
était... Non, mais je crois qu'on a assisté à une autre représentation.
Voilà.
On a eu des choses tout à fait différentes. Je n'ai pas du tout eu cette impression d'orchestre dominant. Pas du tout.
Moi non plus, à part
jamais l'orchestre n'a dominé la scène. Jamais. Ça a toujours été un mélange très bien fait. Il y avait une énergie.
Là, c'était nuancé.
Un soutien. C'est paradoxal. Hein. Nous sommes très amis avec Robert. Hein. Donc, on peut se dire les choses.
Jusqu'à présent.
Hein. Jusqu'à présent.
Oui, bon. Je veux bien servir de témoin des deux si ça se
C'est la
mal.
Direction d'orchestre que j'ai le plus appréciée dans la représentation. Enfin, une œuvre avec du relief, de l'éclat, et pas trop d'éclat. Là, vraiment, je n'ai jamais eu l'impression.
Je suis assez d'accord
j'étais
là-dessus,
au parterre.
J'ai entendu ça.
Eric était également au parterre. Nous n'étions pas très loin l'un de
Absolument.
L'autre. Mais vraiment, il y avait un très bel équilibre entre le plateau et la fosse. Et la disposition qu'il avait adoptée pour les vents était la disposition adoptée à la Scala. C'est la disposition Verdi.
Alors là, je ne pense pas qu'on puisse comparer quand même la salle de la Scala.
La fosse de la Scala et la fosse du Capitole.
Oui, mais il faut garder mesure en toute chose.
Non, mais ce n'est pas extraordinaire la manière dont il a distribué les instruments dans la fosse.
Mais l'acoustique n'est pas du tout la même, Serge. Je ne vois pas.
Ça fait rien.
On n'a pas été choqués, en tout cas, par l'orchestre et sa direction.
Pas du tout. C'était vraiment.
Les chœurs étaient
bien équilibrés.
Moi, au-delà de l'orchestre. On peut en discuter, c'est vrai, la conception. Moi, franchement, la chose qui m'a gênée, c'est le Macbeth. Peut-être que je n'ai pas entendu les dernières représentations, mais tout ce qu'a dit Robert, pour moi, est totalement vrai. C'est quand même Lady Macbeth qui a finalement le premier rôle et qui est un personnage maléfique, tant pis pour les femmes. Mais Macbeth, là, était non seulement pâle, mais souvent en but, avait des difficultés de souffle, de tenir une ligne. Je ne sais pas si c'est la faute uniquement au chef d'orchestre, mais je ne pense pas qu'il ait des capacités vocales réelles pour dominer un rôle comme ça. Ce n'est pas un baryton Verdi tel qu'on l'espère ou on veut l'entendre. Donc, ça faisait partie des choses qui m'ont un peu gêné, ainsi que la direction d'acteur qui était quasiment inexistante.
Il n'y en a pas.
Moi, c'est ça, et oui, on peut dire qu'il n'y en a pas. Et notamment, Vitaly Bilyi, pour moi, il était à l'abandon. Il était comme une barque à la dérive.
Livré à lui-même.
Il ne savait pas quoi faire de ses jambes, de ses bras, de son corps.
En fait, il n'était pas le seul à l'abandon.
Et même qui, elle, en revanche, est une vraie tragédienne et qui a vraiment le physique de l'emploi pour jouer à Lady Macbeth.
Elle a joué un personnage.
Voilà.
Bien que, alors je reprends ce que disait Robert à propos du premier acte, tout le premier acte, elle a chanté bas. C'était pénible même, parce qu'on avait l'impression qu'elle chantait les notes avec quelques commas au-dessous de la bonne tonalité. Elle avait des problèmes d'intonation qui se sont arrangés après, mais j'étais un peu gêné par l'amplitude du vibrato. Alors, dans tout le premier acte, le vibrato, était excessif, quoi. Alors qu'elle a une puissance vocale impressionnante.
Ah oui, ça, oui, aucun problème.
Impressionnante.
Mais je me suis posé la question, je ne sais pas si c'était le cas, si elle n'était pas en méforme ce soir-là, pour des raisons de fatigue, un problème de santé quelconque, je ne sais pas.
Je ne crois pas, parce qu'elle-même était très satisfaite, et elle a dit après qu'elle considérait que c'était une de ses meilleures représentations.
Sauf que je pense qu'elle a dominé le plateau malgré ces petits problèmes que vous citez,
oui,
parce
absolument.
Que les autres rôles, même s'ils sont bien chantés, ils sont plus épisodiques, c'est évident.
Bien sûr,
donc elle doit tenir quand même, elle, un rôle écrasant du début jusqu'à la fin. Donc c'est quand même elle qui a dominé le plateau, c'est vrai, et qui a donné à ce Macbeth une dimension dramatique, je pense,
c'est incontestable la concernant. Moi, c'est vraiment effectivement.
Et elle va continuer sur ce terrain-là, puisque donc les Marseillais vont avoir l'occasion de l'entendre dans Gioconda la saison prochaine. Ce qui n'est pas rien.
Les Marseillais Gioconda. Qui nous écoutent, notez-le dans votre agenda. Je ne sais pas quand
ils le savent certainement.
Ils le savent certainement mieux que nous. Bon, on va refermer une bonne fois pour toutes le dossier Macbeth en même temps que le premier chapitre de cette émission. Nous nous retrouvons dans une minute pour la seconde partie et pour parler de musique en dialogue ou carmélite avec Catherine Kaufmann-Saint-Martin. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Vous recherchez un clavier numérique ou un piano acoustique ? Amadeus Piano propose les plus grandes marques au meilleur prix. Amadeus Piano est aussi la clé de vos concerts et de vos événements. Du piano droit haut de gamme au piano à queue de concert, nous mettons tout en œuvre pour vous fournir une prestation de haute qualité. Avec Amadeus Piano, la référence du service et du transport de piano à Toulouse et dans la région, bénéficiez du savoir-faire de Robert Burali, facteur de piano diplômé et accordeur du Conservatoire et de l'Orchestre de Chambre de Toulouse. Retrouvez tous nos produits et services sur amadeuspiano.fr. Amadeus Piano vous souhaite de passer un agréable moment avec Mélomanie.
Seconde partie de Mélomanie avec les invités de ce numéro, Anne-Marie Chouchan, chroniqueuse musicale à la Dépêche du Midi, Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour Culture 31 et le journal La Voix du Midi, Robert Pénavert, l'autre cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, également chroniqueur pour Culture 31 et les journaux Côté Toulouse et La Voix du Midi, et donc avec notre invitée d'honneur, Catherine Kaufmann-Saint-Martin, fondatrice et directrice artistique de Musique en Dialogue au Carmélite.
Mélomanie. L'agenda.
Catherine Kaufmann-Saint-Martin est l'invitée de ce numéro, mais elle est aussi bien d'autres choses encore, puisqu'elle œuvre depuis longtemps dans le milieu musical de la région toulousaine, notamment aux côtés de Jean-Marc Andrieux et de l'Orchestre des Passions de Montauban. Vous avez été aussi la fondatrice et la directrice artistique de la saison de concerts organisée à l'Orangerie de Rochemontès, que vous avez décidé d'arrêter fin 2016, mais vous n'êtes pas restée longtemps inactive, puisque dès l'été suivant, vous fondez et lancez une nouvelle saison de concerts à Toulouse, à la Chapelle des Carmélites. Vous avez donc intitulé cette saison « Musique en dialogue aux Carmélites », un titre en référence au lieu, bien sûr, et surtout un clin d'œil implicite à l'œuvre de Georges Bernanos, dont Francis Poulenc a tiré l'opéra du même nom. Ce titre n'est pas là seulement pour faire joli, parce qu'il illustre parfaitement ce qu'est le concept de cette saison. Et là, je vais vous laisser nous préciser ce qu'est la formule que vous avez retenue, parce qu'elle est originale au sens où je crois qu'elle n'a jamais fait l'objet d'une saison entière à Toulouse.
Effectivement, Musique en dialogue aux Carmélites est entièrement consacrée au mariage de la musique et des lettres, de la musique et la littérature, la poésie, la musicologie, le théâtre et peut-être prochainement la danse. Donc ce sera toujours musique en dialogue, la musique en dialogue avec tout ce que je viens de vous exposer. Et aussi, c'est le mariage toujours présent des notes et des mots.
Alors ce qui vous oblige à une programmation évidemment un petit peu particulière, parce qu'il faut trouver des musiciens, ça... A priori.
J'en connais.
Vous en connaissez beaucoup, mais il faut aussi trouver des récitants qui peuvent être souvent des comédiens, en tout cas des gens qui sont habitués à réciter, à parler en public, à lire en public. Comment vous les choisissez, ces artistes et ces programmes ?
Alors, il y a différents cas de figure. Les artistes, eh bien, ce sont effectivement, comme vous l'avez dit, des artistes que j'ai côtoyés tout au long de ma carrière d'attaché de presse de musique classique. Une longue histoire. Certains sont devenus des amis. Enfin, tous. La plupart de ceux que j'invite ont la gentillesse de venir souvent par amitié et non pas par appât du gain. Parce que sinon, ils ne viendraient pas. Et alors, il y a des spectacles qui sont des spectacles déjà constitués. Ce sera le cas du premier qui s'appelle L'amour toujours. D'autres où je fais rencontrer des musiciens avec des récitants. Et d'autres qui se sont parfois croisés ou pas. Donc il y a effectivement des comédiens, des philosophes, des conteurs, des narrateurs. Et c'est toujours un cas de figure un petit peu différent. En tout cas, ce qui est une règle, c'est que ce sont toujours des spectacles inédits à Toulouse ou dans la région. Bien sûr, il y a des artistes qui sont très connus ici, comme Clara Serna et Thierry Huillet, mais avec Luc Ferry, c'est la première fois qu'ils viendront à Toulouse. D'autres fois, c'est le contraire, c'est le récitant comme Régis Goudeau, qui est très connu du monde théâtral
toulousain. Comme il est bien connu, notamment de ceux qui fréquentent le théâtre Sorano.
À qui j'ai demandé de venir donner la réplique à Muzaru Basquité au piano. Donc voilà, ce sont toujours des spectacles qu'on n'a jamais ou rarement vus ici.
Est-ce que certains peuvent être des créations, voire des espèces de commandes, c'est-à-dire que vous donneriez un thème, et puis les artistes qui s'en emparent vont créer quelque chose à partir de ce thème?
Oui, ce n'est pas le cas cette année, mais ce sera le cas l'année prochaine, où j'ai demandé à une violoniste que j'aime beaucoup de constituer un trio. Je lui ai demandé de trouver un violoncelliste, parce que je suis une passionnée du violoncelle, et je lui ai suggéré quelques noms d'actrices avec qui j'aimerais qu'elle échange sur un thème donné. Voilà, donc ça c'est vraiment moi qui l'ai construit, disons.
Un mot sur le lieu que vous avez choisi, cette chapelle des Carmélites, parce que je crois que vous y êtes très attaché. Alors, je ne sais pas pour quelles raisons, pour des raisons esthétiques, pour des raisons acoustiques.
Alors, lorsque j'ai arrêté les concerts à l'Orangerie de Rochemontès, qui était aussi un lieu magnifique, la mairie de Toulouse m'a proposé d'organiser quelque chose intramuros et m'a donné carte blanche pour choisir le lieu et le concept. Donc, le lieu, il y a deux endroits que j'aime énormément à Toulouse, qui sont Saint-Pierre-des-Chartreux et la chapelle des Carmélites. Bon, Saint-Pierre-des-Chartreux, c'était pas possible parce que prévoir deux ans à l'avance un concert alors que c'est une église consacrée et qu'il peut y avoir un mariage, un enterrement,
une cérémonie. Hein,
ouais. C'est absolument impossible de caler quelque chose, d'autant que moi j'aime bien faire mes concerts l'après-midi, donc le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, de façon à ce que tout le monde puisse y assister, pas nécessairement les gens qui sortent le soir, ni les gens qui viennent en voiture, qui sont obligés de se garer dans les parkings. Bon, on peut prendre les transports en commun, donc j'avais quand même pas mal d'impératifs. Les Chartreux, j'ai oublié, et la chapelle des Carmélites est un lieu que j'aime beaucoup. Et mon concept étant de toujours ne programmer que de la musique de chambre, c'est-à-dire très intime, il me fallait un petit lieu qui ne dépasse pas 200 places, et c'est le cas de cette magnifique chapelle baroque, peinte,
des ou la poussière des fresques.
À ce moment-là, quand les choses se sont décidées en 2016, la chapelle n'était pas encore autant exploitée que maintenant, et la mairie de Toulouse était ravie. En plus, comme je fais les concerts l'été, parce que la chapelle n'est pas chauffée l'hiver, c'était aussi un lieu patrimonial très important pour la mairie de Toulouse, dans sa recherche du classement à l'UNESCO aussi, de mettre en valeur ce très beau lieu que nous faisons découvrir avec nos concerts, autant à des Toulousains, car bizarrement beaucoup de Toulousains ne connaissent pas l'endroit, qu'aux touristes, puisque les concerts ont lieu en juin, juillet, août partie septembre, oui. Et que c'est vrai que parfois le soir, enfin dans la journée aussi, il y a assez peu de manifestations.
Une période de l'année
l'été.
Où on le sait, il n'y a pas beaucoup de choses à Toulouse, en tout cas pour l'instant, mais je crois qu'il y a une volonté justement d'en proposer plus. Une autre des particularités, c'est que c'est une saison très ramassée. Ça commence à la fin du printemps et ça se termine au début de l'automne.
C'est une saison estivale, je pourrais presque dire un festival, puisque c'est juin, juillet, août, septembre. Et c'est très agréable parce que la chapelle est au cœur d'un jardin avec de très beaux arbres. Et après les concerts, on peut rencontrer les artistes, parfois avec un verre de rosé, tant qu'il y en a encore en France. Je tiens à ce que les après-concerts soient assez conviviaux et que l'on puisse rencontrer les artistes, ce qui ne se fait pas dans les grandes salles, bien évidemment.
À l'ombre des arbres qui sont situés entre la chapelle des Carmélites et la bibliothèque du patrimoine.
Rue du Périgord.
Donc, premier concert, double concert, samedi 9 juin à 18h, dimanche 10 juin à 16h. L'amour, toujours avec Clara Tchernat au violon, Thierry Huillet au piano, le couple le plus glamour de Toulouse dans le milieu musical, et puis donc le célèbre philosophe Luc Ferry en récitant. Moi je ne savais pas que Luc Ferry était récitant. Je sais qu'il fait des conférences par exemple, mais
alors, Luc
récitant,
Ferry, il n'est pas récitant, il est philosophe.
Oui.
Donc il va philosopher à partir de certains textes qu'ils ont choisis ensemble, et à partir de ces textes qui vont donner un thème, il va pratiquement improviser. Il y a deux concerts, je pense que les deux vont être différents selon son inspiration et les musiques qui illustre cette thématique, avec Clara au violon et Thierry au piano. Thierry, compositeur également, puisqu'il va y avoir...
Il y aura des morceaux de Thierry Huillet, d'ailleurs.
Du Petit Prince de Saint-Exupéry, qu'il a composé avec trois extraits, ce qui est cher au cœur des Toulousains, puisque c'est le centenaire de la première ligne, la TECOER, qui donnera plus tard l'aéro-postale et non spatiale.
Donc 1918-2018. Alors, les musiques, il y aura du Saint-Saëns, du Massenet, du Ducas, du Forêt, du César Franck, du Thierry Huillet. C'est français.
Ouais.
C'est français.
C'est français. Sauf Monty, de l'Exardas de Monty.
Ah oui, l'Exardas de Monty, j'ai oublié, c'est vrai, c'est la petite exception. Et puis les textes, donc il y a des textes de Luc Ferry lui-même, mais il y a aussi des textes de Marcel Proust, extrait de La Recherche du Temps Perdu, il y a Anatole France, il y a Henri Casalis, bon pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un poète dans la mouvance de Stéphane Mallarmé, de ces gens-là. Il y a du Goethe, alors là.
Là, ce sera une création mondiale, parce que c'est le mythe de Prométhée, qui est un poème symphonique d'après une ballade de Goethe, de Paul Ducas, et évidemment, c'est écrit pour orchestre, et Thierry Huillet en a fait une transcription pour violon et piano.
Et puis donc, des textes de Saint-Exupéry, programme très alléchant. Très, très alléchant.
Très alléchant. Alors, si vous permettez, je vais vous lire une petite citation que j'ai trouvée dans Télérama.
Allez-y.
Clara Cernat, sur scène, dégage le charisme d'une diva d'opéra et la puissance d'une rockstar, un mélange unique.
Oui, il est vrai qu'elle est extrêmement expressive comme violoniste. Clara Cernat, en plus, elle est très agréable à regarder. Je le dis pour ceux qui ne la connaissent pas.
Ce sont de grands amis.
Et ce sont vos amis, Thierry et Clara. Alors, il y aura aussi une signature, on peut peut-être le dire, sur place.
Le samedi, le concert est à 18h. Et à 16h, il y aura une signature organisée par Ombre Blanche, mais pas à la librairie Ombre Blanche, dans la cour, en espérant que le temps le permettra, dans la cour de la chapelle des Carmélites. Et le dimanche, le concert est à 16h, et lui sera suivi d'une dégustation de vin et de produits de la ferme après le concert.
Non, je précise, la signature, c'est la signature de Luc Ferry.
Luc Ferry, oui, Clara et Thierry dédicaceront leurs disques également.
Voilà, donc les artistes, vous pourrez les rencontrer, parler avec eux et vous faire dédicacer leurs œuvres. Eh bien, on va écouter un extrait de ce concert... très connu, mais interprété par Clara Tchernat et Thierry Huillet, La danse macabre de Camille Saint-Saëns. Thank you. La danse macabre de Camille Saint-Saëns, interprétée par Clara Tchernat et Thierry Huillet, ce sera une des œuvres au programme de leur concert lecture L'Amour Toujours avec Luc Ferry, les 9 juin 18h et 10 juin à 16h à la Chapelle des Carmélites. Le concert suivant va arriver assez vite, à peine un mois après, dimanche 8 juillet à 16h, de Venise à Venise, itinéraire d'un violon gâté avec la violoniste Amanda Favier et le journaliste récitant pour l'occasion François Castan. Parlez-nous un peu de ce programme, le titre interpelle.
Oui, alors cette saison en fait a été conçue comme un long voyage, un voyage donc qui a commencé avec L'Amour Toujours qui nous amène dans la planète du Petit Prince et qui continue de Venise à Venise.
Bah, l'amour, on se continue à Venise, ça paraît tout à fait logique.
Qui sera suivi par les années de pèlerinage de Franz Liszt et se terminera par le voyage à Lübeck de Jean-Sébastien Bach et Buxtehude. Donc c'est un voyage sur 6 concerts et 4 fins de semaine. Donc de Venise à Venise, c'est l'histoire d'un violon qui est né dans l'atelier du célèbre luthier Matteo Goffriller à Venise en 1723. On peut imaginer que ce beau violon a été joué par Vivaldi ou peut-être par une de ses élèves à la Pietà. Ensuite, quelqu'un l'aurait acheté, serait parti à la rencontre de Jean-Sébastien Bach. Puis quelques années après, il a continué à voyager. Il a rencontré Chrysler. Il est tombé entre les mains de Paganini. Dieu sait que c'était un grand virtuose du violon.
Le grand virtuose de l'époque.
Ce pauvre violon a été muet pendant la période de la guerre, car il a été dans une collection privée, alors on ne sait pas trop ce qu'il a vécu à cette époque-là. On peut imaginer le pire. En tout cas, il n'a pas été cassé. Et puis, il réapparaît maintenant et il va être joué par Amanda Favier, qui est une jeune violoniste bardée de prix, qui a plus de 15 prix de premier prix de violon internationaux, premier prix du concours Jean-Sébastien Bach à Leipzig. Enfin, c'est vraiment une jeune femme ravissante et très, très douée. Et elle a écrit ce texte à quatre mains, voilà. Itinéraire d'un violon gâté, avec François Castan, qui a été connu comme producteur à France Musique, une voix très célèbre que nous avons vue plusieurs fois à l'Orangerie de Rochemontès, qui lui aussi est un ami de longue date. Donc ce texte, écrit à quatre mains, est très attachant et très touchant, et il nous fait voyager à travers toute l'Europe pendant 3-4 siècles. Et je suis très heureuse de les recevoir, parce que c'est vraiment très original. Alors, il y a une musicienne, un récitant, mais en fait, il y a trois personnages, puisque c'est le violon lui-même qui parle.
Ça tourne autour du violon, et c'est vraiment leur texte. La musique, les musiques, va jouer Amanda Favier le 8 juillet. Il y aura du Jean-Sébastien Bach, du Paganini, du Joseph Joachim, Eugène Isaïe, Fritz Kreisler, Nicolas Bacri, on vient un peu plus contemporain, et Nathan Minstein. Je propose qu'on écoute Amanda Favier un petit peu, quelque chose de très célèbre également, le presto de l'été des 4 saisons de Vivaldi, interprété par Amanda Favier. Presto de l'été, les 4 saisons de Vivaldi, interprété par Amanda Favier. Donc ça, c'est le concert du dimanche 8 juillet à 16h de Venise à Venise, itinéraire d'un violon gâté avec François Castan en récitant. Le suivant, ce sera fin août, le 26 août. À 14h30, puis à 17h30, les années de pèlerinage de Liszt, d'abord la Suisse à 14h30, l'Italie et Rome à 17h30, Muzza Rubacité au piano, Régis Goudot en tant que récitant, la musique c'est Francis évidemment, les textes c'est Marie Dagoult, Nerval, Byron et Baudelaire, des textes choisis par Christophe Lesty, le directeur artistique du Théâtre du Capitole. Alors Mouza Roubaskité, vous la connaissez depuis longtemps, cette grande pianiste lituanienne.
Oui, je la connais depuis très très longtemps, c'est une grande amie. D'ailleurs, je l'ai connue au même moment que Clara Serna et Thierry Huillet, que Denis Pascal, à un festival dans les Pyrénées, il y a plus de 20 ans. C'est resté une grande amie, je suis son attachée de presse. Elle joue énormément dans le monde entier, là, en ce moment, elle est dans l'exposition au Musée d'Orsay sur les Pays-Baltes, bien évidemment. Et Mouza est une grande spécialiste de Liszt, c'est une grande amoureuse du romantisme de Franz Liszt, qui a écrit ses années de pèlerinage qui s'étalent sur 40 ans. Franz Liszt, à 20 ans, il est à Paris, il est dans les salons entre Chopin, George Sand et Marie Dagoult, dont il tombe fou amoureux, elle a 8 ans de plus que lui. Mais il l'enlève, ils s'en vont à Genève, ils passent quelques années en Suisse. Ensuite, ils partent en Italie, entre-temps, ils ont 3 enfants, dont Cosima, qui épousera Wagner. Voilà, Liszt est un grand, grand séducteur. Il a un succès fou, c'est la première rockstar. Il invente le concept du récital devant plein de publics.
Il a même joué à Toulouse, je crois, Franz Liszt.
Oui, absolument. Il avait même donné 2 récitals, un récital payant, et puis comme il y avait beaucoup d'ouvriers, de gens pauvres qui ne pouvaient pas y assister, et qui sont allés quand même l'acclamer à son hôtel, Franz Liszt a décidé d'offrir un concert gratuit, et donc d'organiser quelques jours après un concert gratuit pour tous les pauvres, entre guillemets, de la ville de Toulouse. Ah oui, absolument,
Il a vécu donc cette vie, ce succès avec toutes les femmes à ses pieds. Évidemment, au bout d'un moment, le couple s'est un petit peu défait. Ils ont eu donc ces 3 enfants. Et il y a eu des allers-retours entre Paris, la Hongrie, Vienne, Weimar, etc. Et finalement, Liszt est allé à Rome 40 ans plus tard, est entré dans les ordres mineurs. Et là, il a eu une vie beaucoup plus recueillie, rangée, avec beaucoup de spiritualité, de religion. Mais il était déjà beaucoup plus âgé. Et raisonnable. Donc, ce sont 3 années de pèlerinage. Nous ne pouvons en faire que 2 pour des raisons matérielles. C'est déjà un marathon pour la pianiste, pour Mouza Roubaskité, qui jouera 2 concerts dans le même après-midi.
Dans quelques heures.
Oui, et qui sera accompagnée pour les mots. Elle, ce sont les notes et les mots, ce sera Régis Goudot, qui est un merveilleux acteur, qui est venu à Toulouse à la demande de Maurice Sarrazin, qui maintenant fait partie de la troupe du Sorano.
Oui, il était longtemps dans la troupe de Didier Carrette et maintenant il est dans la troupe de Sébastien Bourdac au Sorano. Hein.
Qui a une voix absolument magnifique, pleine d'émotion, de tendresse, et je pense que ce spectacle va être vraiment prenant. Donc pour que les personnes qui aiment Liszt, Mouza et Régis puissent assister aux 2 concerts, nous avons fait un forfait pour les 2, pour ne pas ruiner les gens, parce que ça vaut vraiment le coup de voir tout, puisque c'est une histoire en entier.
Voilà, bon, on va écouter un petit extrait des années de pèlerinage de Franz Liszt, joué par Mouza Roubaskité, au bord d'une source. Vous allez voir, c'est très très joli, on se croirait au bord de la source. Extrait de Au bord d'une source, extrait des années pèlerinage de Franz Liszt, interprété par Mouza Roubaskité, qui donc sera en concert le 26 août à 14h30 puis à 17h30 avec Régis Goudot pour ces mêmes années de pèlerinage de Franz Liszt dans le cadre de la saison de musique en dialogue au Carmélite, qui se terminera le dimanche 23 septembre à 16h avec Le Voyage à Lübeck, Les Passions de Montauban avec Gilles Cantagrel en récitant Le Voyage que Bach fait pour rendre visite à Buxtehude à Lübeck. Ça va être passionnant. Alors, vous vouliez signaler qu'il était en partenariat, ce concert, avec...
Ce concert sera donné 4 fois, donc à Montauban, Albi, Maglone et Toulouse, grâce au partenariat que Musique en Dialogue au Carmélite a noué avec la première quinzaine franco-allemande en Occitanie, qui elle-même est soutenue par la Dépêche du Midi.
Nous en reparlerons beaucoup plus en détail à la rentrée. Ça sera sans doute vers mi-septembre, mais on demandera à Jean-Marc Andrieux, le fondateur et directeur des Passions, de venir nous en parler. C'est déjà la fin de cette émission. Il me reste reste à vous remercier d'y avoir participé et de l'avoir animé avec moi. Merci à Catherine Kaufmann-Saint-Martin d'être venue nous rendre visite. Et longue vie à Musique en Dialogue au Carmélite, dont les premiers concerts de la saison ont donc lieu samedi 9 juin à 18h et dimanche 10 à 16h à la Chapelle des Carmélites. L'amour toujours avec Clara Tchernat, Thierry Villiers et Luc Ferré en récitant. Pour réserver vos places à ces concerts et pour les suivants, ceux des 8 juillet, 26 août et 23 septembre, il faut vous connecter au site www.musiqueandialogue.org. Vous pouvez aussi retirer vos places réservées à l'Office de tourisme de Toulouse au Donjon du Capitole. Il vous suffit pour ça d'aller au guichet. Pour les concerts donnés au Théâtre Garonne, c'est samedi 2 à 20h et 22h et dimanche 3 juin à 17h. Deux séries de concerts dédiées à la musique française. Vous pouvez vous renseigner et réserver sur le site www.theatregaronne.com. Si vous voulez vous renseigner et réserver pour le concert de l'Orchestre National du Capitole à la Hallograin, ce samedi 2 juin à 20h avec Nicolas Angelich, et vendredi 8 juin pour le Requiem de Verdi, toujours par l'Orchestre National du Capitole au même endroit, vous pouvez bien sûr vous connecter au site www.onct.toulouse.fr. N'oubliez pas non plus le festival Passe ton bac d'abord tout ce week-end. Les samedis 2 et 3 juin à Toulouse avec 100 concerts dans 30 lieux de la Ville Rose. Informez-vous sur le site de l'Ensemble Baroque de Toulouse, www.baroquetoulouse.com, à la rubrique Passe ton bac pour connaître tout le programme dans le détail. Et enfin, en ce qui concerne le concert que donne le pianiste Grigori Sokolov ce lundi 4 juin à 20h à la Hallograin avec un programme Haydn-Schubert. Renseignements et réservations sur le site des grands interprètes. www.grandsinterprètes.com. Un grand merci à Christophe Aubry d'avoir assuré la régie technique de cette émission qui est disponible et réécoutable comme d'habitude en podcast dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les vendredis à 19h ainsi que les samedis à 10h. Merci encore de votre fidélité. Allez au concert et passez une très bonne semaine musicale.